t'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Qui filme. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai avec moi Monsieur l'Ours, donc ATLZA, salut.
Salut.
Et Juke.
Salut.
Cette semaine, on va parler de séries télé dans ce segment de cette émission. Et on est en petit comité pour l'instant, donc du coup, on va pouvoir prendre un petit peu le temps de développer chacune de nos trois séries du moment. Bah écoute, Juke, je t'en prie, vas-y, entame le bal.
J'attaque.
Allez.
Allez. Moi, je vais vous parler de l'histoire de Caliph Broder, qui est une série documentaire et qui est disponible sur Netflix. C'est une série, je pense, qui est importante à regarder en ce moment, surtout dans cette période de George Floyd, de Assa Traoré, toutes ces choses-là. L'histoire, en fait, c'est l'histoire vraie, du coup, hein, vu que c'est documentaire, l'histoire d'un New-Yorkais qui s'appelait Caliph Broder. Je vais vous raconter comme ça, en fait, l'histoire de Caliph Broder. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'un jour, un jeune mec à New York s'est fait voler son sac à dos, a appelé les flics sont venus chercher, il a tourné avec eux, et il a désigné son voleur comme étant Caliph Broder, qui se baladait dans la rue, qui rentrait d'une soirée un samedi soir. Et bah, Caliph Broder, du coup, a été arrêté par les flics à 16 ans, et en fait, derrière ça, va arriver une quantité d'événements qui vont mettre en lumière toute la problématique du système carcéral américain, du système judiciaire, de tout ça, parce que Caliph Broder, accusé d'avoir volé ce sac, on apprendra plus tard qu'en fait il a absolument pas volé ce sac, va être produit devant un juge, ne va pas pouvoir payer de caution, donc va rester en prison le temps que son procès soit fait. Et aux États-Unis, ils ont un truc qui est assez magique, c'est que la plupart du temps, ils ont l'habitude sur les petits larcins, les petits problèmes comme ça, c'est que le gars qui a arrêté arrive devant le juge et dit « bon oui, ok, je suis coupable, qu'il soit coupable ou non ». Il s'appelle le plead guilty, il fait son temps, et puis bah, après il rentre chez lui, quoi. Sauf que Caliph Broder, c'était un gamin assez impressionnant qui avait pas mal de valeur et qui a dit bah non, moi j'ai rien fait, donc non, je vais pas faire de plead guilty, je veux un procès, quoi. Sauf que dans l'état de New York, il y a une loi un peu bizarre qui dit que si le procureur n'est pas prêt pour faire le procès, on repousse le procès. Et en fait, avec tout ça, Caliph Broder va passer 3 ans et demi en prison pour quelque chose qu'il a pas fait. Donc c'est une histoire hallucinante. Dans le documentaire, il y a des interviews de Caliph Broder. Il va donc passer 3 ans et demi en prison à Rikers Island. Comme Rikers Island est une ville en elle-même, je crois qu'il y a 15 000 détenus, elle est plus ou moins gérée, les ailes sont plus ou moins gérées par des gangs avec la cohorte acide des gardiens. Caliph Broder va pas du tout rentrer dans le moule et du coup va se faire foutre sur la gueule par à peu près tout le monde là-bas. Donc pour le protéger, l'administration judiciaire va le mettre en isolement. Et alors l'isolement à Rikers Island, c'est enfermé 23 heures par jour dans une toute petite cellule. Et en fait, en isolement, à 16 ans, il va y passer plus de 1000 jours. C'est-à-dire les 90% de sa peine, il va rester à l'isolement. Tant et si bien que bah, c'est un secret polichinelle, hein, il n'y a pas de spoiler, hein, donc du coup quand il va sortir, il va être interviewé, ça va faire tout un bins aux États-Unis, il ne va pas s'en remettre, parce que psychologiquement il a été détruit par ce truc, il va finir par se suicider. C'est une série qui est importante à regarder pour comprendre ce que c'est les États-Unis et comment ça fonctionne. Moi dernièrement j'ai regardé quelques trucs là-dessus, donc il y a eu ça, l'histoire de Caliph Broder, il y a eu The 13th qui est un documentaire qui a été tourné par Ava DuVernay, la nana qui a fait Selma, qui a fait aussi la série dans leur regard là, When They See Us sur Netflix, et dans cette série dans ce documentaire d'Ava DuVernay on apprend que un homme adulte noir sur 3 fera un jour dans sa vie de la prison aux États-Unis. Donc c'est vraiment une problématique hallucinante chez eux, et l'histoire de Caliph Broder est proprement impressionnante, quoi, parce que c'est vraiment de l'injustice du début à la fin, c'est assez innommable. Il y a un nombre de personnes qui n'ont pas fait leur travail dans cette histoire qui est hallucinante, ça va de son avocat au juge, au système carcéral, à peu près tout le monde, personne n'a fait son boulot, et tout le monde s'en fichait qu'un gamin de 16 ans soit en taule pendant 3 ans et demi pour rien. Parce que déjà, pour un sac à dos, s'il l'avait fait, c'est quand même énorme. Mais en plus, il ne l'avait pas fait. Donc voilà, donc moi j'ai adoré regarder ça, j'ai trouvé ça hyper important à regarder et hyper instructif.
Ok, merci Luke.
De rien.
Difficile de rebondir du coup sur une recommandation comme ça, c'est des thèmes qui sont effectivement assez importants. C'est combien d'épisodes et combien
c'est
de minutes?
Six épisodes, c'est des épisodes d'une heure. Okay, ouais. Ça reprend à chaque fois un thème, l'arrestation, sa vie à Rikers Island, le fameux témoin qui l'a accusé d'avoir volé son sac, enfin des choses comme ça quoi, sur les six épisodes, et ça développe toute l'histoire de son arrestation jusqu'aux suites de sa libération, où sa mère a essayé d'obtenir justice, où toute sa famille a essayé d'obtenir justice, à tout ça.
Ok, ça fait partie effectivement des œuvres qui ont été un peu mis en avant ces derniers temps sur tout ça.
Pour vous donner aussi un contexte, c'est que l'histoire va être tellement importante que dernièrement, le gouverneur de l'État de New York a décidé de fermer Rikers Island. En grande partie à cause du scandale de Caleb Browder.
D'accord. Parce que c'est assez récent, ça, finalement, cette histoire.
Oui, il est sorti de prison dans les années 2000 et il s'est suicidé il y a quelques années.
D'accord, ok. Très bien.
À rapprocher aussi de... Alors, sans l'aspect black, de Making a Murder. Qui est exactement la même chose, sur... j'ai plus l'histoire exacte en tête sur un mec qui se fait accuser de...
C'est un mec qui est un peu un bon à rien, ça fait longtemps que je l'ai regardé, un mec qui est un peu un bon à rien mais qui va du coup faire le suspect idéal. Making a Murderer, par contre, moi j'étais pas allé jusqu'au bout et je sais, en fait on savait pas trop, on savait pas trop si vraiment c'était lui qui avait fait qui avait perpétré les faits ou...
Non, mais je me suis arrêté une saison aussi, au bout d'une saison t'as envie un peu de savoir, il a été libéré, blanchi, puis si je me rappelle bien, il a été donc il y a eu la première affaire pour laquelle il était en taule et tout, il a été innocenté,
ouais.
Et il y a eu une deuxième affaire, et c'est pour cette deuxième affaire là où on n'arrive pas à la fin de la première ou deuxième saison, je sais plus, à déterminer si c'est vrai ou si c'est faux. C'est vrai que j'ai pas repris après.
Permet à toutes ces séries documentaires là permettent de mettre la lumière sur le système des États-Unis qui est de on enferme tout le monde pour tout et pour rien. Mais à tel point que j'ai appris une stat, c'est que aux États-Unis, un quart de la population carcérale dans le monde entier, c'est les États-Unis. Ils ont des prisons dans tous les sens. C'est un business en plus privé, les prisons aux États-Unis, donc c'est un business énorme. Donc c'est vraiment une énorme problématique chez eux.
Ok, on invite tout le monde à regarder cette série documentaire sur Netflix et puis éventuellement à venir partager vos impressions sur la série, sur Kifin du coup.
Tout à fait.
Avec toi, Juke, si tu y as déposé.
J'ai mis ma critique.
Et tu l'as noté combien ?
Je t'ai noté 9 et je l'ai mis un coup de cœur parce que vraiment c'est important comme truc.
Mm-hmm.
Plus que ce que tu avais vu précédemment dans le même style qu'on t'a cité, donc Making Murderer et dans
The Sortins, va du Vernet a pris. Alors, The Sortins, pour faire rapide et pour contextualiser, c'est que c'est le 13e article de la Constitution américaine dit qu'on ne peut plus faire de quelqu'un un esclave, sauf s'il a été reconnu coupable. Et en fait, le parti pris d'Ava DuVernay, c'est de pas mal de gens aux États-Unis, c'est de dire que les États-Unis ont un gros problème avec le racisme, n'ont plus le droit d'utiliser des esclaves. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque ? Ils ont fait la Constitution. C'est que on fera des esclaves avec les prisonniers. Et du coup, depuis, ils emprisonnent tout le monde. Donc son idée, je ne sais pas si je la partage, parce que c'est compliqué de... C'est pour ça que je ne l'ai pas noté aussi bien de sortie, c'est que je ne suis pas sûr d'être totalement d'accord avec elle, parce que ça manque de preuves. Son idée, c'est de dire ils ont remplacé l'esclavage par des gens en prison, et c'est pour ça qu'ils mettent tout le monde en prison.
Ok, intéressant.
La joie et la bonne humeur.
Oui.
Mais heureusement, oui. Dans ces cas-là, la fiction est parfois un peu moins, on va dire, fantasque que la réalité.
Complètement.
Merci Juke pour cette recommandation série documentaire. Et on accueille autour de la table un invité surprise en la personne de Dr McGeek.
Salut. Salut à tous.
Qui nous rejoint du coup sur cet épisode spécial série. Et je vais te passer la parole à Telzeda. Du coup, tu vas nous parler de la dernière création de Greg Daniels, il me semble.
Ok, j'ai pas noté cette info-là. Moi, si tu le sais, c'est parfait. je vais vous parler de Space Force. Donc, Space Force est une série américaine, donc jusqu'ici de une saison de 10 épisodes, diffusée sur Netflix, et qui a été diffusée tout d'un seul bloc, bien entendu, fin mai 2020. Donc, c'est relativement récent. On est donc dans une série qui mélange comédie et science-fiction, avec une belle brochette d'acteurs. Donc, pour en citer quelques-uns, donc Steve Carell, Lisa Kudrow, donc, qui était Phoebe dans Friends, et John Malkovich, qui est quand même, on se demande un peu comment il a atterri là.
John Malkovich dans à peu près tous ses rôles.
Ouais, c'est ça. Et qui est John Malkovich aussi, pas mal dans ce rôle-là. Et, parce que vous le connaissez pas, mais on le repère bien, Jimmy O Tang, qui est Jian Yang dans Silicon Valley. L'asiatique qui squatte la maison du barbu là.
Oui,
le mec un peu tout chelou là. Et là qu'on retrouve en espèce de scientifique astrophysicien quoi. C'est...
Ouais.
Mais c'est marrant parce qu'il est un peu dans le même perso donc ça match quoi. Donc de quoi ça parle tout simplement, un jour le président des États-Unis tweet Boobs on the Moon. Et l'armée, bien entendu, il a dû se tromper, et il n'a pas voulu dire boobs on the moon, mais boots on the moon. Donc ils se sont dit que le président des États-Unis avait décidé de retourner sur la Lune. Donc il crée une nouvelle division spéciale au sein de l'armée, la Space Force, qui va venir complémenter Air Force, en fait, et qui va être dirigée donc, par le général Nerd, donc Steve Carell. Et ce général va faire équipe avec un scientifique excentrique, John Malkovich, donc pour mener à bien rapidement ce projet, parce que l'objectif, c'est dans un an, Boobs on the Moon, quoi. Donc après, vous voyez, le pitch est déjà un peu rigolo, s'en suivent pas mal de péripéties, notamment parce que les Chinois ont pris la même décision, et vont leur mettre des bateaux dans les roues, enfin, il y a une sorte de course qui s'installe avec les Chinois, il y a pas mal de conflits politiques, de mecs qui sont pas contents, parce que c'est Space Force, c'est une nouvelle division, et c'est pas dans Air Force, donc il y a des conflits, de la jalouserie, etc., puis les histoires perso, des personnages qui sont aussi un peu tarabiscotés, voilà, c'est du classique. Alors, se faire un avis sur Space Force, c'est pas évident, parce que, vous voyez, le pitch d'origine et la première phrase un peu de la série du président qui tweet Boobs on the Moon, c'est drôle, quoi. Donc, on va vers une série drôle qui va mélanger un peu de SF, parce que, enfin, vraiment pas beaucoup, mais parce qu'il faut retourner, voilà, sur la Lune.
Pour faciliter le scénario, quoi.
Voilà. Et puis, ils font des vaisseaux qui sont débiles, et voilà. Mais, fondamentalement, on se pisse pas dessus, quoi. C'est pas à mourir de rire, d'épisode en épisode, c'est pas à la barre de rire, et on n'enchaîne pas ça indéfiniment. Pour certains épisodes, on sourit en mode « ouais, c'est fun ». Mais c'est tout. Ça va pas beaucoup plus loin dans l'humour. Parfois, ça tombe même un peu à plat, tu sens qu'il y a une sorte de gag, mais c'est pas méga drôle, quoi. Et puis, il y a quand même des zones scénaristiques qui sont... vide. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais par exemple, dans le premier épisode, le fameux général Nerd, qui est nommé à la tête de Space Force, donc doit déménager de Washington, un bled paumé dans le Nevada, quoi. Ok, donc on voit ça. Et dans le deuxième épisode, sa femme est en prison. Alors que dans le premier épisode, ils discutaient ensemble du fait de déménager dans le... Et ça, de toute la saison, ce sera jamais expliqué. Alors il va voir sa femme en prison.
En prison,
elle est en tenue orange, ils ont des discussions, comme quoi... elle va y rester longtemps.
Ouais, c'est ça, tu sais juste qu'elle a fait un truc grave, mais c'est pas quoi. Après, voilà. C'est peut-être un ressort qui garde...
Alors effectivement, ça sent le ressort pour plus tard, mais c'est chelou, c'est un aussi gros ressort que, genre, dans le dernier épisode, tu saches pas ce qui s'est passé, quoi. Alors que, niveau scénaristique, il va lui rendre visite en prison, il y a quelque chose de cousu autour de ça, mais t'as envie de savoir ce qui se passe, quoi. Et puis en plus, sa femme, c'est Lisa Kudrow, donc c'est quasiment le premier acteur que tu reconnais dans le film, en disant « Ah putain, excellent Phoebe, quoi !» Et vu qu'elle est en tôle, tu la vois pas beaucoup. Donc il y a deux trois trucs comme ça qui te font dire mais qu'est-ce que c'est que cette série, quoi. Mais à côté de ça, il y a deux trois points qui font que c'est clairement excellent. Et le tout premier, en fait, c'est que c'est une satire, c'est hyper critique de la société américaine. Enfin, la première chose, je veux dire, un président qui tweet Boobs on the Moon, vous avez tous un nom en tête. Trump demain, il fait ça, mais sans problème. Et
il l'a déjà fait d'ailleurs.
Et donc, c'est une critique hyper acerbe de la politique actuelle des États-Unis, enfin, de Trump. Cette série, elle est profondément anti-Trump, quoi. Et voilà, donc les militaires se tirent dans les pattes, ils pensent que à leur carrière. Enfin, je veux dire, faire un choix complètement merdique, mais juste parce que ça fait chier l'autre mec, tu vois, ça, c'est ça le cœur de la série. comment voilà favoriser toujours son poste à la bonne décision, prendre un truc parce que c'est moins cher et tant pis si ça va péter au milieu du voyage. Ils font que ça, les mecs, quoi. Et à ce niveau-là, c'est acerbe, c'est sans phare, c'est satirique de la société américaine. Donc tu le regardes et ça t'apprécie. Mais voilà, ça c'est excellent. Vraiment, ça c'est très très bon. Et puis c'est tellement actuel que ça fait plaisir. Mais vu que c'est pas assez drôle. À l'opposé, tu danses comme ça, un peu d'un pied sur l'autre. Du coup, à la fin de la première saison, donc pour l'instant il n'y a eu qu'une saison diffusée.
C'est ça. Est-ce qu'on continue
avec quoi tu restes ? Est-ce que ça continue ou pas ? Personnellement, ouais, je vais continuer parce que ils ont une base ils ont une super base. Et puis l'histoire avance, donc il y a quand même un truc qui se construit, machin et tout. Mais il va falloir qu'ils décident d'une direction, je pense. Soit qu'il faut qu'ils aillent dans le plus drôle, soit peut-être dans le encore plus critique, dans ce cas-là, en mettant encore en avant plus les travers, en fonçant la tête des gens sous l'eau, pas que Trump, tu vois, j'en sais rien, tu vois, un peu à la manière, j'ai envie de te dire, d'un Hot Shots, Hot Shots, c'est drôle, mais où il faisait venir un Gorbatchev, ou, tu vois, où il faisait venir d'autres personnages extérieurs, un peu comme ça, nommément, et puis il les enfonçait. Ils ont quasiment commencé avec Trump, donc t'as envie de leur dire, bah vas-y, prends d'autres mecs et défonce-les, hein, quand ils commencent à critiquer, alors la Chine, il la critique. Pas directement, il critique un peu les scientifiques et le fait qu'il y ait la course avec eux, mais on voit pas les dirigeants chinois, tu vois, ils pourraient dire, vas-y, on va aller plus loin. Mm-hmm. S'ils vont plus loin, je pense qu'il y a matière. Ils peuvent aussi, voilà, décider d'être plus drôles, j'en sais rien, glisser, pourquoi pas, dans le Brooklyn Nine-Nine, ou le Scrubs, mais version, bon, Scrubs, peut-être pas, mais version Space Force, quoi. Mais il faut qu'ils fassent un choix, parce que je pense que, clairement, s'ils continuent sur cette ligne-là, ils vont pas réussir à faire 12 saisons, les mecs. Après, c'est peut-être pas leur objectif, hein. Si ça se trouve, en 2-3 saisons, c'est plié, et puis tant mieux. Mais je pense qu'il y aura des gens qui auront abandonné à la fin de la première saison. Moi, j'irai voir la deuxième. Et voilà, le problème, c'est qu'une série qui finit comme ça, tu sais aussi que la prochaine saison, c'est en tout l'un ou tout l'autre. Si au bout de 3 épisodes, c'est chiant, ça s'arrêtera là, quoi.
Elle a le même syndrome, cette série, que Miracle Workers. La série avec Daniel Radcliffe là, et Steve Buscemi, c'est le genre de série où tu souris très souvent, où tu rigoles pas souvent, quoi. Quasiment jamais, quoi. Donc ouais, moi je l'ai regardé, j'ai eu la même réaction, c'est que ça manquait parfois de ressort comique, il y a des trucs qui manquaient, et pourtant tu regardes la série en disant, mais putain, quand même, l'écriture, ils se sont fait chier, et il y a des trucs qui sont très très bien écrits, quoi. Mais ça manque de comique. Je pense que je la regarderai parce que Steve Carell, il est, comme d'habitude, il est génialissime. Mais ça manque de quelque chose dans l'écriture, quoi.
En fait, je crois que tous les personnages sont fondamentalement hyper drôles.
Ouais.
Mais on leur file pas le scénario qu'il faut derrière.
Ouais, ils s'expriment pas. C'est exactement ça que je pensais. Ils s'expriment pas. Tu vois, même tu les sens un peu bloqués. T'as envie
qu'ils explosent. Il n'y a pas beaucoup de jeu entre les acteurs. Mmh. Chacun fait sa perf.
Sa scène.
Et t'as l'impression que ça matche pas toujours. Voilà, le truc drôle, ouais, tombe un petit peu. Mais moi, j'ai été hyper ravi de l'humour potache, des gros pieds dans le plat. Même du truc de départ, je pense pas qu'ils essaient de faire plein de saisons, parce que le pitch de départ, c'est Boobs on the Moon, Space Force, ils sont déjà en train de faire le truc, ils vont y arriver, à mon avis, il y a 2 saisons, et après ils ont éculé tous les ressorts, les mécaniques un peu comiques, machin, et si ça n'est pas plus que ça. Là, on est en train de s'attacher aux personnages, parce que ils sont, mais d'une débilité profonde, ou d'un génie profond, mais habillé de débilité, et donc tu t'attaches vite aux personnages, mais si on leur donne rien à mordre, je pense que ouais, les gens ne vont pas suivre.
Il manque un truc. Ouais. C'est d'ailleurs, je pense, l'ensemble des critiques, ça donne ça à peu près. Il y a quelque chose, mais il manque aussi quelque chose,
quoi. En fait, ça donne l'impression d'un gros pilote.
Mmh. Ouais, il y a un peu ça. Est-ce qu'il y a matière ?
Il y a une série qui m'avait déjà exactement donné cette impression-là, je ne sais plus laquelle c'était, où tu regardes une première saison en disant, bah, c'est bien, c'est un pilote. Maintenant, il faut transformer l'essai, les gars, quoi. C'est, ouais, vous pouvez continuer.
Je me souviens plus, il y a des regards caméra, non ? Steve Carell, il y a des regards caméra.
Je crois pas qu'il fasse le quatrième mur.
Ouais, non, je crois pas.
Je crois pas.
Tu vois, c'est l'impression que j'ai regardé la première saison, et je suis pas capable de te dire s'il y en a ou pas.
Non, il y en a pas.
Et donc, on est dans ce truc, mais je...
La série, j'ai l'impression que globalement, les gens sont plus ou moins de votre avis sur cette première saison de Space Force. Je citais du coup Greg Daniels au début. Je pense que la série a peut-être été justement un peu vendue pour ce qu'elle n'était pas. Parce qu'en fait, ce mec-là, c'est le créateur de The Office US. Donc, oui. C'était annoncé comme étant la nouvelle série avec le créateur de The Office US et Steve Carell.
Ouais.
Donc, tout le monde attendait ça un peu comme un nouveau truc hyper culte qui était en train d'arriver, quoi, ouais. Avec Netflix. Là où, en effet, les gens ont peut-être pas retrouvé l'humour qu'il y avait dans The Office, même si, a priori, les ficelles sont à peu près les mêmes. Je sais pas si c'est, du coup, ce qu'on appelle un documentary, quoi, un espèce de faux documentaire, ou si c'est...
Non, c'est complètement débile.
C'est totalement romancé, ouais.
Dans le sens, je veux dire, est-ce que c'est une équipe...
Mais dans la satire, il y a des pics à la réalité dans la satire, mais dans la lutte avec les Chinois pour la conquête de la Lune,
ouais, tout
c'est, bidon, c'est d'un débile profond, quoi.
Mais dans la manière dont c'est filmé, c'est pas une équipe, par exemple, de télé
si,
qui vient...
Si, justement, dans la façon dont c'est filmé, il y a un peu de ça.
D'accord,
pas l'équipe, mais il y a un peu de ça, quand même. Tu as un peu l'impression de suivre la vie du mec comme tu la suivais dans The Office. Franchement,
j'ai pas vu The Office.
Franchement, tu suis Steve Carell qui mène une aventure, tout machin. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça et il y a vraiment des bons personnages. Son aide de camp, là, enfin son,
oui, son de secrétaire, camp, quoi,
son
oui.
secrétaire,
ah, il est énorme,
il est terrible, lui.
Ah, lui, il est génial,
qui fait tout sauf son boulot, mais il est quand même là. Il y a du running gag à gogo.
Non, mais surtout que le mec, il est pas secrétaire. C'est comme même ils disent dans le film plein de fois. Le mec, il est là, il prend les appels, genre qu'est-ce que vous voulez manger ce soir et tout. Et le mec, il le regarde, son chef, il dit non mais vous êtes général. Genre arrêtez de jouer au secrétaire.
Le mec, ou alors le mec rentre dans son bureau, il y a quelqu'un qui l'attend. Et il fait putain, mais donc il ressort, il va voir son secrétaire, il fait bah, c'est... ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un machin dans votre bureau.
Et ça, c'est running gag, c'est tous les épisodes.
C'est ton métier, putain.
Ouais.
C'est pas son métier, puisqu'il est général.
Et puis il y a des choses, en plus, oui, voilà. Et il y a des trucs comme. Le truc qui m'a marqué, c'est. Tu sais, il cherche des solutions, comme dans Apollo 13, à un moment. Ouais, il faut absolument qu'on trouve une solution en 12 heures, là, pour faire ci ou pour faire ça, machin. Et ils sortent avec une histoire de missile ou je sais plus quoi, bidule, puis c'est tout un truc énormissime. Tu sens que c'est. Enfin, toute la base est sur le truc, et le chimpanzé. C'est énorme. Et puis
au
dernier moment, tu vois la scène, et là il y a un tout petit truc, il sort une petite merde sur un énorme engin, ça fait pum. Et là tu dis, enfin tu sais, ça te casse quelque chose dans le.
En fait, il y a des fois, ils sont. C'est pour ça que je faisais à la limite un parallèle avec autre chose. Il y a des fois, ils sont vraiment.
Ouais, il y a du hot shot, ouais.
Ils sont vraiment dans le. Comment. Dans la parodie. Parce que, effectivement, oui. Ils ont un problème d'un vaisseau qui est pété, machin et tout. Il faut trouver une solution en 12 heures, tu vois ce que disait Greg. Et les mecs, c'est ça, c'est les scientifiques qui commencent à bosser sur une grosse solution. Alors, si ça va bien, on envoie un nouveau vaisseau qui va faire ça, ça et ça et ça. Et le mec, il fait et attendez, on n'a jamais envoyé un singe dans l'espace, on n'a pas. Combien de temps ça nous prendrait de lui apprendre à servir d'une perceuse pour qu'il aille réparer et tout. Et tu vois, et le mec, tout le monde dit mais non, c'est de la merde, on va pas faire ça. Et le mec, tu vois, il dit si, on va faire ça.
Et ils y vont.
Et ils y vont. Et ils balancent, tu vois, un singe avec une perceuse dans l'espace. Et là, tu fais, non, mais ils sont cons. Et là, c'est tellement con, c'est tellement absurde que t'es pas dans les séries où le ressort comique, c'est que le mec fait toujours fondamentalement le mauvais choix et du coup, ça tire des emmerdes. C'est que là, le mauvais choix, il est tellement grossier, il est parodique. Mmh. C'est juste que, ouais, c'est bien entendu qu'ils vont faire ça puisque c'est une parodie, tu vois. Mmh. Donc, le ressort comique, il est là aussi, il faut pas... C'est The Last Man on Earth qui reposait vachement sur ce problème de le mec, dès qu'il a un choix à faire, il fait le mauvais, ça te lasse. Mais là, vu que le mauvais choix, tu vois, c'est complètement incongru.
Ok, très bien, bah merci pour donc, cette recommandation sur Space Force, saison 1, disponible sur Netflix, en attendant que la saison 2, peut-être, du coup, choisisse son ton un peu plus que sur cette première saison.
J'imagine en mai l'année prochaine.
À retrouver sur Kifilm. Du coup, pour la petite note qui va bien, ouais, la critique si ça vous dit, n'hésitez pas.
Bah, d'ailleurs, au niveau des notes, on n'en a pas parlé. Moi, j'avais dû lui mettre 7, mais ça aussi, hein, entre 6, 7, il y a peut-être un 8 qui traîne.
Ouais.
Mais voilà, les gens, on voit bien, les gens ne savent pas sur quel pied danser. Globalement, ça doit valoir un 7, je pense.
C'est noté. On enchaîne avec Dr. Matt Geek. Tu vas nous parler très rapidement du coup d'une série culte a priori que tu as revue.
Ouais, voilà, moi je suis dans ma crise de la quarantaine là, donc je revois les séries, je binge watch. Il est chiant ce mot en fait, faudrait le franciser
ouais.
Un peu, non?
Ouais, il est chiant.
Comment on dit?
Tu l'as dit en série?
Binge watch.
Ouais. On s'en est pas occupé.
Je binge juste.
Je binge, ah c'est pas mal ça. Donc là je me suis refait Lost.
Très bien, ouais.
Entièrement. Et puis là je me refais X-Files, voilà, qui est dispo sur Prime.
Mm-hmm.
Et ça vieillit très très bien, voilà, ça vieillit très très bien, gros plaisir de retrouver le premier épisode, Eugène Toombs, tous les trucs qui nous ont marqués, et franchement, tu redécouvres avec plaisir ce côté Fox Mulder, le spooky Mulder, qui lui croit dur comme fer, parce que il a été témoin de l'enlèvement de sa sœur, et Dana qui, elle... finalement, arrive toujours à trouver une explication scientifique ou qui, du moins, tente de lui mettre sous le nez. Donc, quand tu vois, ils arrivent sur une plage, enfin au bord d'un étang, tu sais, le sable de la plage a été transformé en verre, la cime des arbres a été cramée, le mec machin. Donc bah forcément pour Mulder, c'est un flying saucer qui est passé, qui a dégagé une chaleur de ouf. Mais pour Dana Scully, bah c'est des éclairs qui sont tombés, des trucs, des machins. Donc il y a toujours quelque chose. C'est quand même vachement bien foutu. Et puis voilà, tu redécouvres des trucs que t'avais oubliés, quoi, que le fumeur il est là dès le premier épisode, le mec qui aide Mulder en secret, machin, il est là dès le premier épisode, tu apprends tout en fait. Donc c'est vachement plaisant, je trouve, et puis t'es en attente là, de ce dont tu te rappelles, de dire quand est-ce qu'il va rencontrer les trois gugus complètement ouf, les nerds qui vivent dans leur cave, quand est-ce que machin. Et voilà, moi j'affectionne, m'a vraiment accompagné pendant longtemps, pendant 10 ans presque la série. Et donc, gros plaisir de le revoir. Du coup, pour le coup, David Duchovny prend un gros coup de jeune.
Ah oui.
Dana Scully, t'as l'impression qu'elle a des noisettes dans les joues comme les écureuils. Donc, il y a 20 ans de moins, quoi, tu vois. C'est, et donc, ça marche toujours super bien. Voilà, je pense que c'est
t'es
vraiment...
Rendu, t'es rendu où, là?
Là, j'arrive à la fin de la première saison. Je viens juste de finir Lost. Mais ça vaut le coup, quoi, franchement.
Surtout les premières saisons, en plus, avec les épisodes standalone qui étaient pour moi meilleurs que les épisodes qu'on.
Mythologiques.
À l'époque, même gamin, quand je l'avais regardé, j'adorais les épisodes standalone. Enfin, tu te prenais des flips. C'était génial. Évidemment, le duo marchait de ouf. Mais même déjà gamin, quand c'était parti plus vers le fil rouge de la série, vers le complot, etc., ça m'avait saoulé, alors que les épisodes standalone, j'étais ultra fan, quoi.
Alors moi, ce que j'aime bien faire maintenant, c'est re-regarder, chose que je faisais absolument pas il y a 20 ans, c'est regarder qui réalise les épisodes, parce que t'as toujours, dans des séries qui commencent à marcher comme ça, alors rarement dans les premières saisons, mais dans les séries qui commencent à marcher, t'as souvent des guests en fait qui réalisent.
Ouais.
Et donc tu retrouves des mecs soit qui faisaient leur premier épisode et qui derrière nous ont fait des trucs qui ont cartonné, soit des mecs qui avaient déjà signé des trucs de ouf et qui s'amusent en guest à faire un épisode de telle série ou telle série. Donc là, ce sera le cas aussi, comme ils avaient fait avec Urgence, Tarantino il avait tourné un numéro d'Urgence, machin, tous ces trucs là. Mais du coup maintenant je regarde avant pour avoir l'œil quand tu regardes le truc et dire ah ouais, bien sûr, il y a un truc. Et là ça devient parce que en fait aller revoir comme ça. Maintenant que tu redécouvres, tu t'arrêtes sur d'autres. C'est ça que je trouve bien dans le rewatching, c'est que tu redécouvres des trucs, tu t'arrêtes pas sur les premiers trucs un peu évidents. Et donc, et du coup, tu te dis, non mais là, cet épisode-là, il est carrément différent de celui d'avant, quoi. Le mec fait plein de gros plans tout le temps, il suggère plutôt que de montrer ou machin. Et des fois, c'est pas le cas, quoi. Donc ça, c'est l'intérêt que je vois à remater un truc qui avait bien cartonné, quoi. Donc
est-ce
là, ça marche bien.
Est-ce que tu vas, du coup, avoir envie d'aller jusqu'aux dernières saisons où il y avait eu une sorte de relance de la série sur 2 saisons il y a 2-3 ans, là?
On en a parlé dans un épisode, ça?
Non, parce que si, peut-être...
Je ne sais plus.
J'avais déjà été un petit peu déçu. C'était quand même, ils sortaient vraiment des rails.
D'accord, ouais.
Ils avaient essayé de réinventer un peu un truc, et puis, bon, moi, j'avais pas du tout accroché. J'avais pas du tout accroché les films non plus. Non, je
vais rester dans le
truc nostalgique. Je suis amoureux du c'est nostalgique.
Ok. Prime qui fait là cet été, cette année de manière générale, mais cet été surtout un gros, j'allais dire un hold-up justement sur la nostalgie, parce que ils ont ressorti énormément de séries assez cultes. T'as parlé de Lost, X-Files.
Parlons-en. Malcolm, je veux Scrubs.
Malcolm.
Écoutez-nous, je veux Scrubs. Je veux plus.
Malcolm, Fringe, qui est
descendante
un peu assez directe de X-Files, au moins dans sa première saison. Des séries un peu plus mineures, mais Smallville, Vampire Diaries, qui sont cultes pour certaines personnes. Ouais, clairement, c'est assez impressionnant. Alors, on sent que
ils remplissent aussi vachement le catalogue de trucs, mais genre Randall, des trucs de série B.
Ouais.
Mais où le pitch, l'image, la vignette, le truc te donne trop envie. Franchement, je sais pas combien de trucs j'ai lancé et au bout de 10 minutes j'ai arrêté. Tellement la surprise était pas là.
Bon, après, là, c'est la concurrence au remplissage du catalogue. Moi, j'avais pas d'abonnement Netflix jusqu'à pas très longtemps. Alors, j'en ai un et c'est laborieux des fois. Tu sens que c'est du remplissage de catalogue, hein. C'est fait vite fait.
Alors oui,
surtout au niveau cinématographique.
Tu veux dire les productions originales.
Ouais.
Ouais. Mais on sent qu'Amazon, en fait, ils ont pris une direction qui est intéressante, dans le sens où j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils n'arrivaient pas forcément à avoir de production originale
Tu veux dire Amazon Original ou...
Ouais, qui avait vraiment un gros succès critique, hormis Mrs. Maisel, dont on parle quasiment à chaque fois, je pense. Et j'ai l'impression que là, ils se sont dit, c'est pas grave, ok, on va se faire un back catalogue avec que des trucs cultes que les gens, ils vont trouver... Enfin, les gens, ils vont adorer pouvoir le revoir, parce que sinon, c'est juste dispo en DVD. Ou pas, quoi. Et pourtant, c'est des séries genre... Je sais pas, Lost, ça fait 10 ans cette année que c'est fini. Je pense qu'on peut le trouver assez facilement en support physique et les gens ont été super contents de le revoir.
Ouais, mais t'as plus de support physique, tout ça. Finalement.
Ouais, voilà, ça montre aussi ça, quoi.
Les gens s'étant séparés des supports physiques, maintenant tu veux revoir quelque chose, ouais, t'as envie de le retrouver sur une plateforme. Mm-hmm. C'est ce que t'as cité, mais tu vois, moi j'en suis là, j'ai envie de revoir Scrubs là. Chez moi, il n'y a pas de lecteur Blu-ray, il n'y a pas de lecteur DVD, nulle part, aucun. Tu vois, dans les Mac, il n'y en a pas. Donc j'attends qu'une plateforme remette toute la série, quoi.
Mais je trouve que ce truc-là de remettre des supports cultes et du coup être clairement dans la nostalgie, c'est presque plus un... En tout cas, moi je le vois plus comme une contre-attaque au lancement de Disney+, que quelque chose vis-à-vis de Netflix, tu vois.
On digresse, là, on peut parler de Disney+, aussi.
On pourra peut-être en parler, effectivement, mais il y a des choses à dire, mais du coup, je trouve que, voilà, enfin bref, X-Files, les vieux Disney, est-ce que c'est pas un peu le même combat? On va chercher des choses qui nous ont plu il y a des années et des années sur ces plateformes de streaming-là. Mais donc, tu recommandes en 2020, X-Files, ça reste toujours
excellent. Ah, complètement.
Et pour un jeune, alors j'ai peur que la réponse soit trop facile, parce que nous on l'apprécie ou on risque de l'apprécier, parce que c'est notre génération, parce qu'on l'a connu jeune et que t'as toujours ce biais de « Ah, c'était cool quand même !» Mais un jeune qui mate ça, est-ce qu'il va pas trouver ça ringard, tu vois?
Alors pour le coup, tout est ringard, quoi. Je veux dire, l'habillement est ringard, les voitures sont ringardes, mais le discours...
C'est ringard ou c'est vintage?
Je crois que c'est pas encore assez vieux pour être vintage, c'est par contre trop vieux pour pas être ringard.
Par contre, les discours sont carrément, les dialogues, ils sont hyper contemporains. Je veux dire, le mec pourrait te dire ça aujourd'hui, la nana lui répondrait la même chose, les discours administratifs du FBI, machin, très... Parce qu'il y a ce mur de l'administration FBI, là, avec les mecs qui savent tout, qui veulent pas trop en dire. Il y a un épisode sur deux où il trouve quelque chose, tu fais putain, ouais, c'est trop bien. Et à la fin de l'épisode, soit le FBI vient réquisitionner les trucs, soit l'appartement brûle, soit le machin. Donc je crois que ce truc du complot, il est presque même que jamais contemporain, quoi.
Effectivement, oui.
Ouais. Après, ça manquera un peu d'effets spéciaux, ça manquera un peu de flair, de trucs, de belles images, d'une photographie, parce que là-bas, à l'époque, la photo, c'était pas le truc de ouf.
Elle était très grise, très marron.
Sauf là. Ouais, il joue à fond sur le contre-jour, la grosse lumière avec une silhouette, puis en fait c'est un hélicoptère qui arrive. Tout ça, c'est hyper bien foutu. J'adore ce tournant. Il y a vraiment un truc, je pense, qui peut encore plaire à des jeunes, de se dire oh, ça y est, on y est, alors qu'en fait on n'y est pas.
Si t'es jeune, que tu veux te culturer, reprends X-Files, quoi.
Ouais. Je pense que c'est fondateur quand même, X-Files. Oui, c'était la trilogie du samedi soir.
Exactement.
Je me posais la question, je me dis est-ce que je devrais retenter Buffy? Et assez rapidement, je me suis dit non.
Moi j'ai essayé un, je trouve que ça a plus vieilli par exemple, parce que t'as quand même les gros maquillages, les gros caractères en silicone là, les mecs tu vois limite le pli,
les prothèses,
et puis c'est tellement stéréotypé, en fait dans X-Files c'est pas hyper stéréotypé, le mec il croit aux extraterrestres mais il est comme toi et moi, dans Buffy, bon bah...
Ouais tu t'identifies pas.
Le prof, c'est le prof, le jeune courageux, c'est le jeune courageux, l'autre timide, l'autre geek, l'autre machin, la nana sexy, la nana badass. Je sais pas, ouais, je trouve que ça vieillira plus vite.
Pourtant, Buffy est une des séries, si ce n'est la série la plus étudiée dans les cercles universitaires. Donc je pense qu'il y a des choses à y piocher, mais en termes d'image, effectivement, ça a peut-être un peu plus vieilli. Ouais.
Et ça mérite un autre aparté, X-Files, sur, je vais mal le prononcer, sur Gillian Anderson. Qui explose littéralement dans Sex Education, dont on a déjà parlé, mais vraiment je la trouve limite resplendissante dans cette série. Elle, par rapport à des productions où on l'a vu entre X-Files et maintenant, où tu la sentais, je la sentais crispée cette meuf, tu vois.
Ouais, elle est...
Et là, dans Sex Education, elle est.
Même c'est un rôle de MILF aussi, quoi.
Ouais, mais elle le fait hyper bien, elle est à l'aise dedans, elle est...
Elle l'âge d'aimer les MILF aussi.
Non, tu vois, justement, je lui dis, on ne fait pas trop encore. Mais je la trouve vraiment à l'aise dans le rôle. Et
j'ai l'impression que c'est. Je sais pas. Pour en avoir un tout petit peu vu sur les réseaux sociaux, qu'elle est assez comme ça. Elle semble être assez, assez naturelle, cool, assez cool dans la vie, en tout cas, dans la manière dont elle communique.
Parce que voilà, le personnage, c'est l'antithèse comment Scully, de Scully quoi. C'est la meuf qui est tout sauf coincée, hyper décontracte, aucune contrainte d'aucune sorte, machin et tout. Donc
Ah mais c'est ce qui la rendait sexy dans X-Files. D'être coincé.
Ça doit être ce qu'il a rendu ici en tant que MILF.
Le grand tailleur bouffant, hein, c'était.
Ouais, mais.
Je sais pas s'ils appelleraient ça sexy.
Je montrerais bien mon petit homme vert.
Ah bah, à la même époque, je préfère Buffy.
Bon. C'était pas exactement effectivement le même âge. X-Files sur Prime Video, du coup, à voir. 9 saisons, je pense, plus 2 nouvelles, peut-être un petit peu moins recommandables. Et un seul site pour en parler qui filme, j'en
sais rien.
On va pouvoir conclure du coup cet épisode spécial série avec Upload. On parlait de Prime Video, bah, c'est une série Prime Video Originals qui est sortie ces derniers mois pendant le confinement. C'était ma série du confinement, on peut dire. Et on parlait aussi, ça fait beaucoup de coïncidences, mais de Greg Daniels. J'essaie de ne pas me tromper parce que du coup j'ai envie de dire Daniel Greg. C'est pas du tout la même chose. Ou alors il y a l'acteur aussi. Mais
on en parlera à la fin de l'année.
Qui est donc effectivement cette année grosse actualité pour lui, parce que du coup, en plus de Space Force, il a aussi créé ou co-créé Uploads, qui pour le coup n'a rien à voir, entre guillemets, enfin n'est pas particulièrement une comédie de bureau, on va dire. Encore qu'on suit quand même le quotidien d'une personne dans un open space, mais pour pitcher très rapidement la série, on est dans un futur relativement proche, un peu un monde à la Black Mirror, on va dire. Et dans ce monde, on est capable, on a conçu un dispositif qui est capable de, en gros, télécharger les personnes, enfin plutôt téléverser les personnes dans un univers virtuel au moment où ils vont mourir, quoi. Juste avant de mourir, en gros, tu peux télécharger ta conscience dans cet univers virtuel et te retrouver un petit peu comme un Sims, mais pleinement en possession de tes moyens, dans un espèce de jeu vidéo dans lequel tu vas pouvoir passer... ben, l'éternité en fait. Donc la série aborde ce thème qui est assez intéressant de est très lié pour le coup à la SF et à l'anticipation de l'immortalité, comment la technologie peut ou pas nous amener à accéder à ça, quoi. Là, ils le font pas à travers des implants ou des modifications génétiques, ils le font à travers le fait de s'envoyer dans un univers virtuel et du coup de ne plus avoir de corps. Même si du coup la série prend soin de montrer que les corps sont quand même préservés pour éventuellement faire quelque chose plus tard, et je pense que la série abordera ce sujet-là un jour si elle continue. Mais en tout cas, cette première saison, on est sur la découverte du personnage principal qui s'appelle Nathan, qui meurt un peu précocement, on va dire, dans la trentaine, et qui arrive dans cet univers virtuel. Et toute la saison va nous faire découvrir un peu sa découverte à lui de cet univers virtuel.
Il arrive dans un ordi, Nathan.
C'est ça. c'était une blague. Et en fait, ce qui est intéressant... Alors, se rajoute à ça une couche légèrement enquête, on va dire. Il y a un peu des mystères. C'est très très léger, mais ça va amener quand même à la conclusion de la série, de la saison et à certains rebondissements. Et c'est surtout une sorte de comédie romantique, puisque très rapidement, en fait, dans cet univers virtuel, puisque... tu peux totalement en fait échanger avec les gens vivants. En fait, c'est comme si tu peux le faire à travers un téléphone ou à travers un chat, quoi. Et donc, dans cet univers virtuel qui est géré par un prestataire privé, chaque personne étant décédée dans cet univers virtuel a une sorte de d'ange gardien, de quelqu'un de physique qui répond à ses moindres besoins, à ses moindres questions, qui l'aide aussi à s'acclimater dans les premiers moments où elle est là. Et évidemment, du coup, il va y avoir une relation amoureuse qui va se nouer entre ces deux personnes. Au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître. Et ce qui est intéressant, au-delà du côté peut-être un petit peu attendu du format, c'est de se dire un peu comment ils vont vivre leur relation, elle étant faite de chair et de sang, et lui étant totalement virtuel maintenant, quoi. Donc il y a toute une petite mécanique, ce qui est hyper intéressant, parce que j'ai bien aimé la série. C'est clairement pas la série du siècle, mais tu passes un bon moment, je trouve que les personnages sont attachants, il y a quasiment que des nouvelles têtes, donc ça permet aussi d'être un peu dans un truc un peu rafraîchissant, quoi.
Mais il y a le fumeur de X-Files.
Ouais, il y a quelques guests qui passent une tête de temps en temps, ce que j'ai trouvé donc sympa, c'est feel good, je trouve, même si vers la fin, il peut y avoir quelques petits moments un petit peu gore et un petit peu angoissant, mais c'est très très léger, mais c'est assez feel good de manière générale. Et ce que je trouve assez cool, même si encore une fois c'est pas la série du siècle, à quasiment chaque épisode ils vont en fait introduire un peu un concept futuriste de la vie de tous les jours, quoi.
D'accord.
Un peu à la Black Mirror, mais ce que je trouve cool, c'est que là où Black Mirror en général c'est vraiment pour te montrer un univers qui est complètement dystopique et tout ça, qui montre le côté effectivement négatif de la chose, là c'est plutôt pour te montrer tout simplement comment les choses auraient évolué, et puis comment les gens il y a beaucoup de choses vis-à-vis des imprimantes 3D par exemple, des trucs comme ça, quoi. Et c'est assez intéressant, et le monde virtuel aussi est intéressant dans la manière dont il est pensé, dans le sens où il y a plusieurs en fait univers virtuels qui se partagent un peu la vedette, comme aujourd'hui on aurait plusieurs réseaux sociaux. Ben là il y a plusieurs univers virtuels dans lesquels tu peux aller, certains plus cheap que d'autres, certains qui sont vraiment faits pour ceux qui n'ont pas d'argent, on va dire, et qui sont très très limités. En gros, c'est l'équivalent du début du portable quand on avait juste une carte prépayée et que très vite on. Ou des débuts d'Internet, quoi. Enfin, il y a un vrai truc comme ça où. Je pense, parce que j'ai déjà eu des retours de développeurs qui m'ont dit que c'était pas parfait, clairement, mais qu'ils se sont quand même renseignés sur la plausibilité de la chose, quoi. Et là-dessus, je trouve que c'est hyper agréable et hyper sympa à suivre. Donc, je vous invite à la regarder, parce que franchement, moi, je trouve que c'est assez cool comme exploration futuriste de la société, dans tout un tas de thématiques qui sont intéressantes. Il y a le champ qui est vraiment ouvert pour plein de choses dans les saisons suivantes. Pour passer un bon moment, et
est-ce que c'est
ça
pas
marche bien, quoi.
Genre, est-ce qu'on peut la regarder en couple, tu vois, est-ce que ça... Alors, gros stéréotype, est-ce que ça va plaire à ma femme, à notre copine?
Alors, moi,
on part du principe que nous sommes des geeks, tu vois.
Je pense que ça peut se regarder en couple. Je pense que ça peut parler à des gens qui ne sont pas geeks, dans le sens où il y a un truc que la série a très bien compris, je crois, c'est que, en gros, le numérique est suffisamment installé dans notre société, même chez des gens qui n'ont pas spécialement, tu vois, d'appétence particulière là-dessus, que tu peux comprendre, en gros, que tu peux comprendre l'univers dans lequel tu es sans forcément avoir suivi toutes les séries du monde ou être toi-même à fond sur ces thématiques-là. Je trouve que ça reste relativement abordable. Et il y a un truc qu'ils font aussi qui est assez génial, c'est que... Il y a pas mal de nouvelles marques qui sont annoncées dans la série, mais en fait qui sont des assemblages de plusieurs marques, quoi. Là, je pourrais pas en citer, mais qui montrent qu'en gros, il y a eu des rachats de gros agglomérats, conglomérats de trucs et tout. Et tout ça fait que, en fait, ça reste relativement terre à terre, je trouve. C'est vraiment des extrapolations de notre vie d'aujourd'hui, mais assez légères. Mais donc, oui, c'est geek, mais pas suffisamment pour être, je trouve, pour qu'on soit perdu, quoi, quand on est un public classique, on va dire.
Ouais, puis j'ai trouvé que ça soulève plein de trucs de la vie de tous les jours, telle qu'elle sera demain. Je pense à l'enterrement. La scène de l'enterrement, elle est assez caustique, quoi. Un, parce que c'est drôle. Deux, parce que ça pourrait arriver.
Complètement, ouais.
Et puis, t'as des. Tout l'enjeu de la série, il est quand même sur comment vivre entre virtuel et réel. Donc le sexe, les relations d'amitié aussi. Et puis tu as tout ce truc qui t'interroge sur... Il y a aussi une dénonciation, je trouve, de l'argent, quoi. C'est-à-dire, là, le mec, il débarque dans un univers quand même où il peut tout faire. Il est dans un hôtel somptueux. C'est un peu comme si tu pouvais te payer le meilleur hôtel de Disney World alors que les autres vont au camping à côté. Et là, il peut faire ça parce que sa petite amie du moment, elle est milliardaire, quoi. Ouais. Et que c'est elle, pour continuer à vivre une relation avec lui, qui lui paye ça. Et donc, tout lui est permis, tout lui est autorisé. Et donc, tu vois qu'il y a un divertissement, il y a le prix du divertissement, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Il y a un moment, quand même, ça dénonce un peu ce côté... l'entreprise privée peut aller jusqu'à continuer à gagner des sous, même après ta mort, quoi. Et ça, je trouve ça vachement bien foutu. Il y a plein de bonnes petites idées sur des gadgets, le truc de demain, comment réagit la voiture autonome et tout ça, c'est vachement bien trouvé. Comment faire avoir...
Ils ont travaillé les détails, quoi.
Il n'y a pas juste un pitch, il y a des super idées.
Sans en faire des caisses, quoi, mais comme tu dis, effectivement, c'est demain, si on privatise la mort, est-ce qu'on ne se retrouvera pas dans un jeu vidéo avec des DLC, des lootbox, quoi. On est vraiment dans ce genre de délire-là. Et même, en fait, la série, quand tu la regardes, tu peux la trouver un peu légère, mais en fait, quand tu grattes un peu, il y a tout un tas de sujets assez importants et durs qui sont traités. Même les deux buddies du héros,
que j'adore,
que tu rencontres dès le premier épisode, hein, c'est quand même un ex-militaire qui revient sans ses jambes et qui finit par se suicider, quoi. Enfin, on te le dit direct, donc le background est quand même assez dur. Et, voilà. Et l'autre, c'est un enfant qui est mort pendant une sortie scolaire, quoi.
Donc le militaire, il vit sa meilleure vie dans sa mort, quoi.
Voilà. Et l'enfant, par contre, bah, il est dégoûté parce qu'en fait, lui, bah, il est bloqué dans son corps de 12 ans, là où, du coup, son petit frère est devenu plus grand que lui et se tape des meufs. Lui, il peut pas le faire. Enfin, mais du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, il y a un vrai truc très futuriste de ça, très science-fiction, qui est assez cool, quoi.
Et Nathan, c'est le mec abonné au second rôle de Arc.
D'accord.
Des vrais premiers petits rôles, mais que dans des petits trucs, ouais. Ou alors du second rôle.
Donc, on l'avait vu aussi dans du coup, les séries DC, Arrow, ah oui, Flash et tout ça.
Tu le vois un peu partout, tu sais jamais comment il s'appelle.
Ouais.
Ok, tu l'as noté combien?
Je ne l'ai pas encore noté ni critiqué sur Kifim. Je pense que je le mettrai autour de 7. Ouais. Okay. C'est une série sympathique.
Ça dépend de ton intérêt, pour une saison, 10 épisodes de 30 minutes.
C'est ça.
Ok.
Ouais, sur Prime, ça se regarde vraiment bien.
Merci.
Ben, oui, merci.
Depuis ta conclusion de l'épisode.
C'est, c'est pour me permettre de, du coup, effectivement, reprendre la parole. Ben, merci à vous, messieurs, pour ce merci. Tour de table autour de la série télé.
Et à bientôt.
On se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Kifim.
Salut.
Salut.
Salut.